Bonsoir Benoît Bouscarel.
Bonsoir Emmanuel Laurentin, bonsoir à toutes et à tous. Tout doit être revu à l'aune des enseignements de la crise du Covid-19. Olivier Véran, le ministre de la Santé, annonce aujourd'hui vouloir modifier en profondeur le système de soins français. On va vers une nouvelle branche de la Sécu pour la dépendance, de nouveaux modèles de financement pour l'hôpital, moins de bureaucratie et puis vers le retour aux affaires de Nicole Notta. Détail de ces annonces faites à la sortie du Conseil des ministres ce matin avec Pierre Neveu et Marie Viennot dans un instant. Vives inquiétudes pour Renault, fermeture de site, menace pour l'emploi, le constructeur français pourrait dégraisser malgré un prêt garanti par l'État de 5 milliards d'euros. Question sur le dialogue social à l'intérieur du groupe et réaction d'Edouard Philippe. On voit ça avec Hakim Kasmi. Et puis l'écho d'après notre chronique hebdomadaire cette semaine sur les effets du télétravail en matière d'aménagement du territoire. Ce sera avec Catherine Pétillon. Pas assez vite, pas assez fort, sur l'hôpital et plus largement sur le secteur de la santé en France, le gouvernement a fait ce matin un exercice de contrition plutôt inhabituel, reconnaissant par la voix du ministre de la Santé, Olivier Véran, que des mesures radicales devraient désormais être prises pour assurer la continuité et pour favoriser la résilience des hôpitaux. Bonsoir Pierre Neveu.
Bonsoir Benoît.
Le plan pour l'hôpital et pour le système de santé français doit être présenté mi-juillet au plus tard à l'issue de ce Ségur de la santé qui commence là. Et rien ne sera plus jamais comme avant, a promis Olivier Véran ce matin. Olivier Véran qui reconnaît en creux que le gouvernement a failli dans sa gestion du système de santé.
Oui, et c'est un exercice assez difficile auquel s'est livré le ministre de la Santé devant la fatigue et l'exaspération des personnels de santé. Olivier Véran a tout d'abord dressé un état des lieux sans concession, tout en essayant d'embarquer avec lui les soignants dans un Ségur de la santé qui sera piloté dès lundi prochain par Nicole Notta, l'ancienne secrétaire générale de la CFDT. Ces dernières années, un mal-être a grandi à l'hôpital, explique Olivier Véran. Des discours, des lois, des logiques comptables ont pu blesser, lasser, décourager. Et le ministre de poursuivre dans son mea culpa, nous n'avons pas été assez vite et assez fort dans la loi Ma Santé 2022. Olivier Véran propose donc d'engager des transformations profondes. Il cible la bureaucratie, le corporatisme et les inerties du système. Avec tous les acteurs de la santé du grand âge, il promet d'être transgressif s'il le faut pour répondre aux attentes concrètes à l'hôpital comme en EHPAD, hausse des salaires, revalorisation des carrières. Dans cet exercice de style, Olivier Véran explique vouloir faire sauter le carcan du temps de travail, mais sans jamais évoquer directement les 35 heures. Cela fera partie de la négociation pour ceux qui veulent travailler plus, dit-il, mais sans remise en cause des statuts. Notre boussole sera la confiance, martèle le ministre de la Santé, avant l'ouverture de cette concertation qui se manifestera également début juin par l'ouverture d'un cahier de doléances numérique. On le voit, le discours est fort, le ministre s'implique, mais il faudra que les actes soient à la hauteur des ambitions affichées par le président de la République.
Merci Pierre Neveu. Autre annonce faite aujourd'hui, celle de l'étude de la possible mise en place d'une cinquième branche de la Sécu. Elle est étudiée dans le cadre de deux projets de loi relatifs au financement de la dette sociale. C'est un vieux débat qui revient là à l'occasion de l'épidémie de coronavirus. Marie Viennot.
L'idée de créer une cinquième branche de la sécurité sociale pour la dépendance est un passage obligé depuis le début des années 2000. En 2008, Nicolas Sarkozy l'a promis, sans aboutir, François Hollande idem, et Emmanuel Macron s'y était aussi intéressé avant cette pandémie. Cette fois, ce serait acté, la création de cette cinquième branche, en plus de la maladie, les accidents du travail, la famille et la retraite, sera inscrite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Reste à savoir si cette nouvelle branche sera synonyme de nouveaux financements. Pour le moment, sont évoqués 2,3 milliards d'euros qui aujourd'hui financent la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, et pourraient être transférés à la dépendance. Oui, mais pas avant 2024. Pourquoi cela? Parce qu'à ce moment-là, en théorie, en tout cas avant cette crise, la CADES est censée avoir remboursé les dettes sociales et ne plus avoir besoin d'argent. Cette somme, 2,3 milliards d'euros, sera-t-elle suffisante et que se passera-t-il avant? L'avant-texte du projet de loi évoque une concertation avec les partenaires sociaux pour trouver des conditions de financement à plus court terme. Concertation donc, et pas négociation, ce qui serait une nouvelle brèche dans le paritarisme, la sécurité sociale étant pour le moment encore gérée par les partenaires sociaux et non par l'État.
Marie Viennot. Record de collecte pour le livret A, on s'y attendait, ça se vérifie. Les chiffres de l'épargne sur le livret le plus populaire, à défaut d'être le plus rémunérateur, ont atteint des sommets pendant le confinement. 5,5 milliards d'euros placés pour le seul mois d'avril. Chiffre rendu public aujourd'hui par la Caisse des dépôts, c'est plus du double par rapport à l'an dernier.
Les sites de Renault en France devront être préservés. Édouard Philippe a fait part tout à l'heure de son intransigeance, je cite, et de celle de son gouvernement sur cette question.
Des déclarations remontées du Premier ministre qui font suite à des fuites très inquiétantes pour plusieurs usines et sites de production de Renault dans l'avenir, ce qui aurait des conséquences sur l'emploi évidemment et ce qui pose la question de l'avenir des modes de production chez Renault. Hakim Kasmi.
Même si Clotilde Delbos, la directrice générale par intérim de Renault, avait déjà préparé les esprits en février, en indiquant qu'il n'y avait pas le tabou, pour les syndicats, c'est le choc. Entre 2600 et 4000 postes seraient menacés, des chiffres que n'a pas voulu confirmer la direction qui ne souhaite pas faire de commentaires. Une méthode de communication que dénonce Franck Daoud, délégué central CFDT, qui ne va rencontrer la direction qu'en début de semaine prochaine.
Le dialogue social chez Renault ne nous a pas habitués à de tels comportements, de telles pratiques. C'est pas comme ça le dialogue social. Le dialogue social, on dit les choses. Et ensuite, on s'entend sur la manière dont on va traiter les sujets. J'ai appris ça, comme tout le monde, par la presse.
Sur les 4 sites menacés de fermeture, le plus important est Flins, en région parisienne, qui emploie 2800 personnes. Le site pourrait être totalement reconverti et ne plus produire de voitures. Actuellement, il fabrique la Nissan Micra et la Zoé, le modèle tout électrique de Renault. Des modèles qui risquent d'être délocalisés à l'étranger, selon Laurent Giglot, délégué CGT.
Aujourd'hui, la Turquie travaille au-delà de ses capacités. Donc il suffirait de rééquilibrer les volumes. Et pourquoi pas remettre les volumes en France, du Clio 5 vendu en France, sur Flins, par exemple. Ce qui serait tout bénéfique pour la filière automobile française et pour l'environnement.
En attendant, Édouard Philippe vient de déclarer que le gouvernement serait intransigeant sur la préservation des sites en France. La direction de Renault qui doit présenter son plan stratégique de 2 milliards d'euros sur 3 ans le 29 mai prochain est donc prévenue.
Hakim Kasmi. Conséquence de la crise sur le secteur aérien, cette fois la décision d'Air France KLM de ne plus exploiter les 9 A380 d'Air France, et ce de manière définitive, c'était prévu pour 2022, c'est anticipé. Le très gros porteur d'Airbus, dont la production doit s'arrêter prochainement, ne correspond visiblement plus au canon de l'avion du futur. Notre rendez-vous économie maintenant, l'écho d'après sur l'avènement du télétravail. Le confinement a obligé environ un quart des travailleurs à travailler de chez eux, une situation qui n'a pas été simple pour tout le monde, mais cette crise aura bien joué un rôle d'accélérateur pour certaines entreprises jusque-là réticentes à la mise en place du télétravail. Bonsoir Catherine Pétillon.
Bonsoir.
Le télétravail, voilà, qui pourrait modifier la géographie des travailleurs. Est-ce que le télétravail à l'avenir, Catherine, pourrait participer d'un nouvel aménagement du territoire ?
Mais en tout cas, déjà, certaines entreprises et institutions envisagent de déplacer leur siège. D'autres veulent encourager le télétravail de leurs salariés. Le GART, par exemple, une association de collectivités locales dédiée aux questions de mobilité, avait déjà créé une antenne à Lyon, expérimenté le télétravail. Désormais, son secrétaire général, Alexandre Magny, imagine pour l'avenir un changement d'échelle, l'opportunité à la fois d'économiser sur les loyers parisiens et de tirer parti d'une autre répartition géographique des activités.
On a beaucoup de salariés qui viennent de province, qui aspireraient à y retourner. Aujourd'hui, c'est effectivement compliqué. Demain, avec le télétravail, c'est une nouvelle organisation qui peut être possible. Et pour des associations comme les nôtres, je trouve que c'est fondamental de multiplier l'implantation territoriale.
Les enjeux écologiques et de mobilité sont en outre devenus majeurs, mais en réalité, la question géographique était au cœur même du développement du télétravail dès ses débuts, rappelle la sociologue Frédérique Letourneux.
On ne parlait pas encore de transition écologique, mais on commençait à se rendre compte qu'il y avait un problème en termes d'énergie, en termes de déplacement, etc. Donc il y avait vraiment, dès les années 80, hein, quand on parlait à l'époque de télématique, cette idée qu'il y avait en germe une possibilité de réfléchir à une forme d'équité des territoires, ou en tout cas ça pourrait être un outil de développement des milieux ruraux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les premiers rapports dans les années 80-90 qui ont été commandés sur le télétravail, ils émanaient plutôt de la DATAR, hein, l'ancien ministère de l'aménagement du territoire. Et c'est que dans les années 2000, finalement, où là, on est plutôt passé d'une approche spatiale à une reconfiguration du rapport au travail. On est passé d'une certaine manière de l'autonomie géographique à l'autonomie du travailleur, et ces notions d'agilité, de travail nomade sont apparues.
Alors Catherine, dans les années 90 et 2000, cette évolution géographique n'a manifestement pas eu lieu. Question, les conditions qui manquaient hier sont-elles aujourd'hui réunies ?
C'est en tout cas l'analyse de Patrick Lévivès, qui est le président de la fondation, Travailler Autrement. Pour lui, s'ouvre une période propice à un développement économique hors des métropoles.
Quand vous regardez les flux pendulaires, c'est-à-dire en gros les déplacements de travail domicile, ils sont très identifiables. Et si les conditions sont réunies pour permettre l'accessibilité à des lieux, dits tiers-lieux, espaces de coworking, ça peut être des espaces partagés type makerspace, tout ça sont des lieux qui sont multipliés les dernières années par l'effet conjugué des citoyens qui veulent bâtir de nouveaux lieux d'expression et de travail, et en même temps par la prise en conscience des territoires qui sont reculés, que s'il n'y a personne qui travaille dans leur propre territoire, ils perdront donc la valeur et ils perdront des habitants. Bon, ben, les conditions maintenant vont pouvoir être réunies pour fabriquer d'autres politiques publiques et donc bâtir avec les écosystèmes territoriaux les moyens d'apporter à ceux qui le souhaitent une autre façon de travailler, une autre façon de vivre.
Et ces moyens, c'est peut-être d'abord un soutien à ces nouveaux espaces de travail. Sur les 1800 tiers-lieux existants, beaucoup ont été très fragilisés par le confinement. Il sera donc intéressant d'observer dans quelle mesure les intérêts des entreprises et ceux des territoires vont ou non se rencontrer, se renforcer pour favoriser d'autres géographies du travail. Et surtout, Benoît, si cela se fera au bénéfice ou au détriment des salariés.
Merci Catherine Pétillon. L'intersyndicale de Radio France demande aujourd'hui au gouvernement l'abandon des coupes budgétaires prévues et du projet de suppression de postes au vu notamment du rôle joué par l'audiovisuel public en matière d'information, d'éducation et de culture pendant cette crise sanitaire. Rappelons que le plan d'économie présenté il y a un an prévoit 60 millions d'euros d'économies pour Radio France et la suppression de plus de 250 postes. À l'étranger maintenant, au Brésil, la pandémie progresse encore et le pays est sur le point désormais de devenir l'épicentre mondial du coronavirus avec près de 18 000 victimes recensées officiellement jusqu'à maintenant. Pourtant, toujours aucun plan de lutte globale contre le virus n'existe dans le pays et Jair Bolsonaro, le président, semble toujours prendre la pandémie à la légère. Sur place, la correspondance de Jean-Mathieu Albertini.
Comme chaque jour, vers 19h, le bilan tombe. Mais hier, il est particulièrement dramatique. 1179 personnes ont succombé au Covid-19 en 24 heures. Un record au Brésil. Et pourtant, dans un live organisé par le président juste après la divulgation des dernières statistiques, Jair Bolsonaro ne fait aucune déclaration particulière. Il insiste sur la chloroquine, la seule mesure justifiée à ses yeux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le nombre de victimes n'a pas affecté sa bonne humeur.
Il se peut que dans le futur, ils disent que la chloroquine n'était qu'un placebo, mais peut-être qu'ils diront d'ici 2 ans que ça guérissait. Et autre chose, en prend qui veut. Qui est de droite peut prendre de la chloroquine, et qui est de gauche n'a qu'à boire du soda.
Pendant que Jair Bolsonaro ironise une nouvelle fois sur la pandémie, le pays est depuis 5 jours sans ministre de la Santé. En moins d'un mois, un premier a été limogé et un deuxième a démissionné, poussé vers la sortie. Car dans les deux cas, les ministres s'opposaient à la généralisation de la chloroquine et à la fin des mesures de confinement mises en place par les gouverneurs et critiquées par le président. Hier, comme s'il préférait ignorer le problème, le ministère de la Santé a mis en avant le nombre de personnes guéries du Covid-19. Plutôt que de parler des victimes.
Jean-Mathieu Albertini. Le cyclone Ampan, un des plus puissants à se former depuis plus de 20 ans dans l'océan Indien, a touché terre tout à l'heure. Avec ses vents à près de 200 km/h et ses trombes d'eau, il touche la côte indienne au sud de la ville de Calcutta et va peu à peu se déplacer vers l'est en direction du Bangladesh. Les opérations d'évacuation, qui concernent déjà 650 000 personnes, sont complexifiées par les mesures de prévention en lien avec l'épidémie sur place de Covid-19. Sébastien Farcy.
Raoul Pramanik vit avec ses parents au premier étage d'une maison en dur dans le village de Balitchak. Cela se situe à une cinquantaine de kilomètres seulement du point d'entrée du cyclone Amphan. Et depuis sa maison, Raoul ressent déjà la tempête. Les rafales de vent sont de plus en plus fortes, dit-il, et cela a déjà déraciné plusieurs arbres aux alentours et nous n'avons plus d'électricité. Le vent frappe aussi violemment nos fenêtres, les panneaux ne peuvent pas soutenir la pression et l'eau pénètre donc par les côtés. Cela inonde certaines de nos chambres. Ce jeune homme sait toutefois qu'il a de la chance de vivre dans une maison en dur. Dans cet état du Bengale, 500 000 personnes vivant sur les côtes ou dans des maisons fragiles ont dû être évacuées. Une mission compliquée en période de pandémie. Nous sommes déjà touchés par une maladie et cela vient nous frapper en plus, continue Raoul. Les autorités disent que les centres d'évacuation ne seront occupés qu'à 50% de leur capacité pour permettre de garder des distances, mais je n'y crois pas. Nous n'avons pas assez de structures et une partie est convertie en centre de quarantaine. Le cyclone Amphan balayera la ville de Calcutta dans la soirée avec des vents à 110 km/h.
Le financier présumé du génocide rwandais, Félicien Kabuga, arrêté samedi près de Paris, a comparu aujourd'hui pour la première fois publiquement devant la justice. Il a fait savoir par la voix d'un de ses avocats qu'il voulait être jugé en France et non pas par la justice internationale. Venons-en à l'affaire Tariq Ramadan, avec les conclusions d'un expert psychiatrique qui avait été saisi par la justice et qui relance ses conclusions, la thèse de l'emprise de l'islamologue sur ses accusatrices. Tariq Ramadan, rappelons-le, a été mis en examen pour les viols de 4 femmes. Après avoir nié toute relation avec elles, il plaide désormais des relations de domination consenties, ce que conteste le psychiatre Antoine Maret.
Les principales accusatrices de Tariq Ramadan ont accepté d'avoir des relations avec lui, mais elles n'ont pas consenti aux actes d'une extrême violence qu'il leur a fait subir. La conclusion de l'expert psychiatre Daniel Zaghouri renforce l'accusation. Maître Éric Morin est l'avocat de deux des plaignantes.
Ce qui s'est passé, c'est un ascendant immédiat, sans considération du désir de l'autre, comme le dit l'expert. Donc on est clairement dans une relation sous emprise, et c'est très très intéressant que la justice prenne à bras le corps cette question-là, dès le stade de l'instruction, et c'est évidemment une satisfaction.
De son côté, la défense conteste la rigueur scientifique de cette expertise, arguant que Tariq Ramadan n'a pas été entendu par le psychiatre, son avocat, maître Wadi El Amamouchi.
Cette expertise a été réalisée sur les seuls éléments déclarés par les plaignantes, et il se trouve que la rigueur scientifique, elle est plutôt du côté des éléments matériels qui ont été apportés, prouvés par la brigade criminelle, et qui ont prouvé que ces dernières mentaient, se contredisaient, changeaient leur récit au gré de leurs auditions, et par conséquent, elles n'apportent aucune preuve des actes soi-disant violents qu'elles évoquent. Même cette main tendue, cette expertise qui était censée être une bouée pour les plaignantes, s'est finalement révélée être plutôt un boulet, j'ai envie de dire, pour ces plaignantes.
Lors de son dernier interrogatoire en février dernier, Tariq Ramadan a lui-même accusé les juges d'instruction d'être, je cite, sous emprise politique.
Antoine Maret, le bulletin météo de demain est un copier-coller de celui d'hier pour aujourd'hui. Soleil quasiment partout et température largement au-dessus des normales de saison.